Le grand des choses. La revue sonore.
En juin dernier, je retrouve Geneviève Azam pour parler de son dernier livre, Lettre à la Terre. Il est question de son, de bruit de fond. Nous nous donnons rendez-vous à Paris dans un petit café. Elle commande du thé. Je prends une eau pétillante. Première question, et si vous deviez vous présenter ?
Je suis une économiste, je suis maintenant retraitée. Je ne suis pas retraitée de la vie pour autant, et je suis essayiste, et je travaille avec plusieurs ONG, en particulier avec ATTAC. Je suis au conseil scientifique d'ATTAC France.
Et vous êtes très proche des questions écologiques et environnementales.
Oui, et ceci depuis quand même maintenant très longtemps. Et pour ATTAC, d'ailleurs, j'étais responsable du suivi des négociations climatiques dans le cadre des Nations Unies, que j'ai suivi pendant plus de 10 ans.
Oui. Alors, on s'était rencontrés à Toulouse autour de votre livre « Osons rester humains ». Et je me souviens qu'on avait évoqué à la fin de la discussion la poursuite de votre écriture. Et donc, vous m'aviez parlé d'une lettre que vous alliez adresser à la Terre. Alors, on ne va pas déflorer le livre qui découle de cette lettre, parce qu'il va sortir en septembre et qu'il faut garder un peu de suspense. Mais quand je vous ai appelé il n'y a pas longtemps, concernant la revue Le Grain des Choses, je vous ai raconté que la prochaine thématique, c'est bruit de fond. Et ça, apparemment, ça vous a parlé, parce que vous m'avez dit qu'il y a une partie du livre qui est en lien avec la question sonore. Donc, est-ce que vous pouvez un tout petit peu me parler de ça ?
Oui, bien sûr. Je vais vous dire quand même un mot du livre, de la démarche, peut-être avant d'entrer dans ces histoires de sons. J'ai écrit plusieurs essais, des articles, j'ai fait des conférences dans lesquelles je parlais de la Terre à la troisième personne, c'est-à-dire comme quelque chose qui restait extérieur à ma propre existence. Donc j'ai beaucoup écrit ou parlé de la Terre. Et là, j'ai ressenti le besoin, l'urgence même, de changer de forme de transmission finalement de ce que je voulais dire et de m'adresser directement à la Terre. Bien sûr, je me suis posé beaucoup de questions sur comment m'adresser à la Terre, qui n'est pas un sujet, mais cette Terre, elle est vivante, justement. Et j'ai voulu rompre cette extériorisation de la Terre pour me sentir en son sein, au sein de ce que j'appelle une communauté biotique que nous partageons entre nous les humains, mais aussi avec d'autres vivants et aussi avec le monde inanimé.
Quand on s'est entendu au téléphone, il y avait effectivement cette question sonore, mais aussi, je pense, la question du dialogue entre l'humain, ce que vous dites, et la Terre, qui font partie d'un même ensemble. Et alors, il y avait un premier livre qui est magnifique, le livre de David Abraham, qui s'appelle « Comment la Terre s'est tue ?» avec un sous-titre « Pour une écologie des sens », qui évoque un dialogue entre l'homme et la terre, pour le coup, et qui est en lien avec la forme que vous avez donnée à votre propre livre. Mais il est question d'un dialogue où l'homme est devenu sourd de plus en plus.
Oui, alors ce livre m'a beaucoup inspirée. Évidemment, c'est un très très beau livre. Mais il m'a inspirée surtout parce qu'il réhabilite la sensibilité des humains, non pas simplement en termes d'émotion, mais la sensibilité comme accès à un savoir aussi. C'est-à-dire le savoir, pour accéder au savoir, la raison n'est pas suffisante, voire elle assèche. Elle peut être asséchante, la raison économique, la raison instrumentale, etc., nous prive du monde. Et donc, par les sens, par la sensibilité retrouvée, bon, je me suis beaucoup inspirée dans le livre de la phénoménologie de Merleau-Ponty, par les sens, on peut retrouver des savoirs et donc entendre ce que peut nous dire la Terre que nous n'avons pas entendu. Je suis partie de là, en fait, nous n'avons pas entendu les alertes de la Terre.
Ou on ne les entend plus.
Ou on ne les entend plus. Et ces alertes, c'était à la fois des silences terribles, le silence qu'a décrit Rachel Carson, Un printemps silencieux, dans ce livre magnifique du début des années 1960. Le titre est très beau, Un printemps silencieux, c'est-à-dire c'est le moment où la terre empoisonnée empoisonne les oiseaux qui ne chantent plus. Et donc, nous avons perdu cette sensibilité à un silence qui n'est pas le silence méditatif que nous pouvons aimer, mais qui est un silence de mort, finalement. Et nous n'avons pas entendu non plus les fureurs de la terre, parce que la terre aussi, elle a ses fureurs, elle tonne, elle gronde, elle se rebiffe, je dirais, par rapport à ce que nous lui faisons subir. Et ça, nous avons perdu, nous ne l'avons pas entendu. Donc c'est ce que, évidemment, nous transmet David Abraham, et notre langage aussi. Nous avons perdu le langage de la terre. Nous avions pendant très longtemps un langage qui était beaucoup plus concret, qui était plus enraciné, je dirais, qui nous venait des sens aussi. Et nous avons un langage qui est de plus en plus abstrait, je dirais aujourd'hui de plus en plus technologique, et donc il nous prive de cette immédiateté de la relation, de l'intimité que nous pouvons avoir avec les éléments de la terre.
Il a une très belle expression, je crois qu'il emprunte à Merleau-Ponty, qui parle de la chair du monde, qui est une matière commune qu'on partage, nous humains, avec l'ensemble du vivant. Et je trouve que c'est une très belle expression.
Absolument, et c'est cette chair du monde qui a été profanée. Qui a été profanée depuis 2-3 siècles et avec une accélération de la profanation. Mais ce sentiment du partage d'une chair commune avec d'autres vivants, avec le monde inanimé aussi.
Qu'est-ce que c'est le monde inanimé ?
Les minéraux, les pierres, les montagnes. Alors, ils sont animés, mais ce n'est pas vivant comme les végétaux, comme les animaux. C'est aussi du temps qui s'est cristallisé dans ces sols, dans ces minerais. Et donc, ils ont avec eux une mémoire de la terre, finalement, qui est une mémoire de la vie aussi. Si nous n'avons pas cette sensibilité immédiate de partager cette même chair, cette profanation, je dis, de la terre, nous ne la ressentons pas intimement. Et si nous voulons véritablement défendre, nous défendre et défendre la terre, il faut que nous partagions cette chair commune, c'est-à-dire que nous souffrions avec la terre, qu'il y ait une empathie. S'il n'y a pas cette empathie, c'est la souffrance avec, finalement, eh bien, nous ne pouvons pas nous soulever à notre tour pour justement défendre ce à quoi nous tenons.
J'avais noté un extrait par rapport à la surdité. Il est écrit « Les arbres nous parlent rarement, voire jamais. Le soleil et la lune n'attirent plus nos prières, mais semblent se borner à décrire en aveugle un arc à travers le ciel. Comment se fait-il que ces phénomènes ne s'adressent plus à nous ? Ne force plus notre implication ou ne répondent plus à notre attention. Si la participation est la véritable structure de la perception, comment a-t-elle jamais pu être interrompue ?
Oui, c'est-à-dire que je pense qu'on a construit un monde séparé, un monde que j'appelle hors-sol, finalement, déterrestré, si bien que nous sommes envahis du bruit industriel, du bruit d'une civilisation industrielle, et nous n'entendons plus les voix de la terre. Alors quand je dis « nous », j'ai été frappée dans les recherches que j'ai pu faire de voir à quel point, malgré tout, dans la littérature, s'est maintenu ce dialogue avec la terre. Je pense à Giono, par exemple, qui a écrit des pages magnifiques, justement, sur le bruit du monde, sur le bruit de la terre, sur les sons de la terre. Donc il y en a d'autres, bien d'autres. Mais je crois que c'est ça qui, aujourd'hui, est retrouvé par des expériences, des initiatives, des alternatives, disons, qui retrouvent un rapport plus charnel à la terre, une chair partagée, et qui permet de réentendre à la fois les silences troublants et les bruits que nous avions oubliés. David Abraham montre bien comment la raison qui nous a animés a atrophié littéralement nos sens. L'ouïe, bien sûr, mais pas seulement l'ouïe. Nous avons perdu aussi le vocabulaire pour parler de la nature. Nous en parlons avec un vocabulaire assez pauvre, finalement. Et dans mon livre, je cite d'ailleurs le travail de Pablo Servigne, « Une autre fin du monde est possible », dans laquelle il dit, il a une phrase qui est très significative. Nous connaissons bien souvent, de mémoire, nous connaissons bien souvent beaucoup mieux des lions, des girafes, etc., qui sont très loin, et nous ne sommes pas capables d'identifier un seul insecte ou un seul oiseau dans la forêt tout près de chez nous. Je crois que c'est ça que nous avons perdu aussi, c'est-à-dire ce rapport immédiat, concret, enraciné dans le sol du monde. On a perdu le sol du monde, on a vécu hors sol.
Et vous parliez d'un recouvrement d'un son par un autre, le recouvrement du son des humains et de leur technologie. Donc ça nous amène à un autre livre merveilleux, surtout pour les gens qui travaillent le son. C'est le livre de Bernie Krause, « Le grand orchestre des animaux ». Et le sous-titre, c'est « Célébrer la symphonie de la nature ». Alors Bernie Krause, donc, c'est au départ un musicien qui est devenu naturaliste et qui est docteur en bioacoustique. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé à la notion de paysage sonore, et il écrit « Les paysages sonores naturels, en particulier, sont les voies d'écosystèmes entiers ».
Ce qui m'a beaucoup intéressé dans sa démarche, c'est qu'il est parti finalement d'une musique purement technique, la musique synthétique, disons, ce que j'avais moi aussi beaucoup aimé dans les années 70-1980, les Doors. Il a travaillé avec Coppola pour la musique d'Apocalypse Now, etc. Tout ça avec de la musique acoustique, donc une pure recréation humaine de son technique. Et pour un de ses films, il est allé, par hasard, prendre des sons dans une forêt californienne, et il n'en est jamais revenu, quasiment. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, que j'ignorais complètement, et qu'on entend très bien dans ses enregistrements, c'est l'interdépendance entre toutes les espèces vivantes, le dialogue entre ces espèces vivantes et, nous dit-il, chacun des oiseaux qu'il enregistre. Et ce n'est pas simplement les oiseaux, c'est la géophonie de la terre aussi. C'est la biophonie et la géophonie, la rumeur du sol, la rumeur du vent, la rumeur des vagues, toutes ces rumeurs-là. Eh bien, il montre comment tout ceci s'orchestre sans chef d'orchestre. Comme si chaque vivant, chaque espèce trouvait sa place précise dans toute la gamme des sons.
Un autre extrait, en noyant les sons naturels complexes de la biophonie et de la géophonie, sous nos bruits, nous perturbons ou détruisons la nature elle-même. Nous en sommes certes de plus en plus conscients, mais avec une économie mondialisée qui ignore les conséquences de sa croissance, il est utile de constater à quel point la nature vierge, telle qu'elle est représentée acoustiquement dans mes archives, a perdu de son étendue, et cela fait réfléchir. Effectivement, il parle beaucoup de cette accélération, de cet étouffement du son de la terre.
Oui, et en particulier, c'est le passage que vous venez de lire m'évoque un autre passage de son livre dans lequel il montre comment des vautours, je pense que c'est des vautours en Californie, meurent parce que du fait des ondes dans les airs, des ondes, des avions, etc., tous leurs repères sont perturbés, totalement perturbés, et souvent, ils échouent sur des lignes électriques, des choses comme ça. Et il extrapole en disant, si la vie humaine en particulier a été possible sur cette terre, c'est que les humains avaient aussi l'ouïe pour se défendre, pour alerter, pour se protéger. Et aujourd'hui, nous n'avons plus l'ouïe pour nous protéger et pour nous défendre contre des grands prédateurs. Il y a une perte des bruits par la disparition des écosystèmes, donc il montre que 50% de ces paysages sonores ont disparu depuis qu'il fait des enregistrements, c'est-à-dire depuis un demi-siècle à peu près. Ils ont disparu du fait de la disparition des écosystèmes, mais du fait aussi du bruit industriel qui empêche les espèces de se repérer et de se protéger. Donc c'est un double mouvement qui nous interroge, nous, humains.
Quand on s'est entendu au téléphone, j'étais surprise aussi par la forme dont vous me parliez, c'est-à-dire écrire une lettre à la Terre et vous m'aviez dit à l'époque, il faut trouver une forme qui éveille plus à la question.
Je vous ai dit au départ que j'ai beaucoup travaillé sur les questions du climat, etc. Je pense que l'accumulation des connaissances scientifiques, c'est absolument nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. On a beau savoir, il n'est pas certain qu'on croit ce qu'on sait. Et pour croire vraiment ce qu'on sait, et donc pour que se passe quelque chose en nous qui nous permette d'agir véritablement, eh bien il nous faut éprouver une situation. Et pas simplement la connaître de manière abstraite, les milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère, le million d'espèces qui disparaît, etc., restent des abstractions. L'énormité de ces chiffres est écrasante, elles restent des abstractions, si bien que c'est ça qui me frappe aussi, on peut être absolument désolé, lire beaucoup d'articles sur la disparition des espèces, et ne pas exiger l'interdiction la plus rapide possible du glyphosate, par exemple. Et donc, il y a une sorte de schizophrénie qui s'opère. Et donc, mon idée, c'est trouver effectivement une autre forme qui s'adresse à la sensibilité et pas seulement à la raison. Aujourd'hui, le sentiment que quelque chose ne va plus, il est partagé. Et du coup, je m'adresse à la Terre, mais c'est le jeu qui parle. À partir de mon trajet, d'une économiste, d'une femme qui pendant très longtemps a vécu hors sol, hors terre, qui même a pu penser à un moment donné que l'émancipation, l'accès à la culture, l'accès à la civilisation, ça se faisait par la rupture des attaches au lieu de cultiver les liens. Et donc c'est le chemin aussi de cette personne, qui en l'occurrence est moi, pour passer d'une vie hors sol à une vie de terrestre. Et une vie de terrestre cultivant les liens, l'attachement, etc.
Comment est-ce que la Terre vous répond ?
Donc j'ai mis pas mal de temps à trouver la forme pour la réponse de la Terre. D'abord, alors, tout à fait d'ailleurs inspiré par le livre de David Abraham, la Terre n'a pas notre langage, d'autant que notre langage, notre écrit, s'est éloigné et a été même conçu pour construire une distance par rapport à la Terre. Donc, elle n'est pas dans cette langue qui est la mienne. Et donc, c'est la Terre qui l'explique, qui le dit. Et donc, elle dit « me confier ». Le soin d'écrire à sa place.
Donc vous êtes la scribe de la Terre.
Alors la scribe, ce n'est pas la révélation, hein, ce n'est pas sous la forme d'une révélation. Je le dis aussi, enfin je le lui fais dire, elle n'est pas une déesse extraterrestre qui nous dicterait les 10 commandements auxquels nous devrions nous plier. Donc elle n'est pas du tout, elle ne dicte pas ce que nous devrions faire, elle est inspiratrice. Je crois, de normes nouvelles, de sensations. Elle nous confie le soin de dire ce qu'elle ressent.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.
À bientôt.